Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Cet été, le Cercle des conteurs du Briançonnais vous offre une sélection des œuvres écrites pour leur dernier spectacle, Contes et musique. Les histoires que vous allez entendre sont inspirées de peintres et de peintures, de l'impressionnisme à aujourd'hui.
Le chevalier et le portrait. Il y a bien longtemps, un chevalier et son écuyer sont de retour de la guerre. Le chevalier est blessé. Montés sur leurs chevaux, ils avancent au pas sur une route qui traverse une campagne vallonnée. C'est la fin de l'après-midi. La nuit va bientôt tomber. Ils sont fatigués. Ils aimeraient trouver un abri. C'est alors qu'ils aperçoivent un château en retrait de la route. Ils prennent le chemin bordé d'arbres qui y conduit. Ils font le tour de la bâtisse. Personne. L'endroit paraît abandonné. Ils descendent de leur monture. L'écuyer s'approche de l'unique tour. Ils forcent la porte. La serrure cède. Ils entrent. Bientôt, ils trouvent une chambre. Elle n'est pas très grande, mais ses murs sont hauts, couverts de tentures et de nombreux tableaux. Le chevalier s'avance près du lit. Sur la table de chevet, un livre. Il l'ouvre, le feuillette. Ce livre est consacré aux tableaux. Pour chacun, il en raconte l'histoire. Le chevalier repose le livre. Il ordonne à son écuyer d'allumer les nombreuses bougies d'un candélabre posé sur le chevet. Il lui ordonne aussi d'ouvrir les rideaux qui entourent le lit. Le chevalier se dit que si sa blessure l'empêche de dormir, il pourra au moins contempler les tableaux et lire le livre. Plus tard, l'écuyer est endormi sur un large fauteuil. Le chevalier est allongé sur le lit. Le haut de son corps repose sur des oreillers épais. Il est demi-assis. Et ainsi installé, il contemple les tableaux et lit le livre. Désireux de changer de position, il se redresse et déplace le candélabre. La lumière bouge et vient éclairer une niche dans le mur. À l'intérieur, un portrait. Surpris, le chevalier ferme les yeux quelques instants, puis les réouvre, prêt à une nouvelle contemplation. C'est le portrait d'une jeune femme. La tête, les épaules, la gorge, l'extrémité de sa chevelure rayonnante se fondent dans une ombre vague, mais profonde, qui sert de fond à la toile. Le cadre est ovale, sculpté finement et doré. La jeune femme est très belle. Après un long moment, le chevalier se met à trembler. Il vient de comprendre ce qui l'a étonné, fasciné et même bouleversé dans ce tableau. Ce n'est pas seulement la beauté du modèle, c'est pas seulement le talent extraordinaire du peintre. Cette toile, se dit-il, est l'expression parfaite de la vie. C'est la vie même ici représentée sous mes yeux. Il s'allonge, il reprend le livre et trouve les pages qui sont consacrées au portrait. Voici l'histoire du portrait. Le modèle était une jeune femme d'une rare beauté. Elle était aussi très gaie. Elle n'était que sourire et lumière. Le jour où elle a rencontré le peintre, elle l'a aimé aussitôt. Elle l'a épousé très vite. Lui, il était studieux, passionné, austère parfois. À ce moment-là, elle n'avait pas compris que le peintre avait déjà une épouse, la peinture, son art. Alors, quand elle l'a compris, elle s'est mise à haïr sa peinture, et même ses instruments, ses pinceaux, ses brosses. Un jour, elle l'a entendu exprimer auprès de visiteurs le désir de peindre sa jeune épouse. elle en a été bouleversée. Pourtant, quand il lui a demandé, elle a accepté, car elle était humble et obéissante. Ont commencé pour elle des heures de patience, assise sur un fauteuil droit dans la plus haute salle de la tour. La lumière filtrait seulement par d'étroites fenêtres. L'atmosphère était froide et sinistre. Ardent dans sa tâche, le peintre ne voyait pas que la santé et les esprits de son épouse s'abîmaient jour après jour. Elle ne se plaignait pas, heureuse de le voir captivé par son œuvre. Ceux qui leur rendaient visite étaient admiratifs devant la toile. Ils se disaient que le peintre devait beaucoup aimer son épouse pour la peindre si merveilleusement. Plus tard, plus personne n'a été autorisé à entrer dans la tour. Le peintre était devenu fou, dévoré par sa passion. Il ne voyait pas que les couleurs qu'il tirait sur la toile, il les tirait du visage de son épouse. Le moment est arrivé, enfin, où il n'est plus resté que deux touches à poser sur la toile. L'une sur un œil, l'autre sur la bouche. Le peintre les a posées lentement. Il a reculé d'un ou deux pas, les yeux fixés sur la toile. Il s'est extasié, puis il a tremblé. « Que m'arrive-t-il ? Que vois-je là devant moi ? La vie, c'est la représentation de la vie même. » Effrayé, il a détourné le regard sur son épouse. Elle avait le corps incliné sur un accoudoir du fauteuil. Son visage était pâle. La vie l'avait quittée. Le chevalier referme le livre. Il pleure. Il pleure longtemps, sans bruit. Il ne dort pas le reste de la nuit. À l'aube, il se lève. Dans une commode, il trouve un tissu. Il décroche le tableau ovale. Il l'enveloppe dans le tissu. Un peu plus tard, monté sur leurs chevaux, le chevalier et son écuyer se mettent en route. Dans sa sacoche de cuir, le chevalier emporte le portrait avec une double promesse. Il l'accrochera à l'endroit le plus lumineux de sa demeure. Et puis, l'autre promesse, lui, le chevalier, il apaisera pour toujours les blessures de sa passion pour la guerre, qui s'est noyée dans les larmes cette nuit-là.
Conte écrit à partir du tableau d'Auguste Renoir, La danse à Bougival. C'était il y a longtemps, au temps lointain d'autrefois. Je marchais dans les collines, remplies de soleil. Soudain, j'entendis un son, le son d'une musette et d'un accordéon de nos campagnes. Je m'approchais lentement. Et là, j'aperçus comme deux taches d'encre qui tournaient, tournoyaient, tourbillonnaient dans le lointain. Des feuilles de marronnier emportées par la bise, deux aigles en train d'accomplir une parade nuptiale, des papillons papillonnants? Non. C'était un couple qui virait, voltait, virevoltait sans cesse. Il y avait dans le maintien de la jeune femme tant d'innocence confiante et dans le maintien du jeune homme tant de pudeur, tant de timidité audacieuse. Dans leur valse commune, on pouvait trouver tant d'abandon. Autour d'eux, d'autres couples tournoyaient. Derrière eux, il y avait des tables autour desquelles s'affairaient des voyageurs du dimanche, partageant limonade, café, vin blanc. Au-dessus d'eux, un chapeau de paille, la toiture sommaire de la guinguette. Au-dessus encore, le ciel, immense, dégagé. Sur les côtés, des champs, des collines. Plus loin, la forêt, la mer. Et derrière, par derrière le rideau du temps, on pouvait voir d'autres couples qui dansaient. Certains avec des perruques et des bas de soie. Un peu plus loin, des chevaliers avec leurs dames d'honneur. Un peu plus loin, beaucoup plus loin encore, on pouvait deviner des rondes sauvages faites des soirs de pleine lune autour de feux de camp. Soudain, un souffle de vent. Le chant enjoué et primesautier d'un merle, la course échevelée d'un cerf dans un champ en contrebas, Merlin. C'était Merlin l'enchanteur qui se trouvait là, avec sa grande barbe, son regard rempli de jouvence toujours renouvelée et son sourire. Merlin se tenait à côté de notre petit couple dansant. Protège-les, Merlin, qu'ils gardent leur harmonie buissonnière et qu'ils puissent la retrouver par les jours de mauvais temps. Protège-les, Merlin. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien.
Le veilleur d'étoiles, d'après La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Dans ce petit village provençal, niché au creux des collines, au pied des alpilles que l'on aperçoit à droite du tableau, est arrivé depuis peu un original, un uluberlu, un fada, comme on dit par ici. Faut dire qu'il a commencé à arpenter le pays en monologuant à haute voix, en faisant des grands gestes de gesticulation, en contemplant le ciel, les cyprès, les vieux murs, les champs, posant son chevalet, sa toile, ses tubes de couleurs, un peu n'importe où. On n'avait pas encore trop l'habitude, pas un travail ça. Bon, les fadas, oui, ça par ici, avec le vent, le mistral, parfois, c'est sûr. Ça peut rendre fou, surtout les étrangers au pays. Celui-là, faut dire, le soir à l'auberge, il buvait sec. L'absinthe, la fée verte, ça devait pas l'arranger. Et puis la nuit, le Vincent, c'est comme ça qu'il s'appelait. Un nom imprononçable chez nous, Vincent Van Rohr. C'est comme ça. Ben, chez nous, on disait Vincent Van Gogh. Un d'un pays du Nord, par là-haut. Il traînait à contempler les lumières la nuit. Le ciel, les étoiles surtout. Fasciné qu'il était. Envoûté même. Et de temps en temps, il leur parlait. Alors dans le village, il y en a qui l'avaient appelé Vincent, le veilleur d'étoiles. Paraît que certaines étoiles lui racontaient des histoires, ou peut-être qu'il les avait lues dans des livres, allez savoir. Que la grande ours et la petite ours, vous connaissez la grande casserole et la petite casserole, eh bien, ce serait carrément une mère et son fils que Zeus, le roi des dieux grecs, aurait envoyé là-haut dans le ciel pour qu'ils soient toujours ensemble. Que Vénus, notre étoile du berger, eh ben c'est la déesse de l'amour sortie de l'écume de la mer. Et alors, j'y crois pas, mais vous savez ce que nous on appelle bon sang, des histoires qu'il faut pas entendre, carrément la voie lactée, ce serait une giclée du lait maternel sortie du sein de Héra, la femme du roi des dieux grecs, Zeus, toujours encore celui-là. Enfin, il y en a même qui vont entendre ces histoires. Bon, si ça les amuse, ma foi. C'est sûr que tourmenté, ça, il l'était. Faut voir les disputes avec son copain qui n'est pas resté longtemps, celui-là. Pas facile non plus. Un peintre encore. Il n'est pas resté, hein, parce que les bagarres, ça finit mal. Bon débarras. Puis v'là que le Vincent, il se coupe une oreille. Exprès. Bon, ben cette fois-ci, on l'a enfermé à l'asile de Saint-Rémy un moment. Paraît aussi que c'est de sa chambre qu'il a vu cette nuit étoilée. Pas sa chambre jaune à Arles, non, celle de l'asile. Cette nuit-là, une étoile lui a parlé. Elle est descendue lentement vers Vincent à sa fenêtre. Elle a vacillé, tremblé, puis doucement a chuchoté d'une voix douce. « Vincent, veilleur d'étoiles, le ciel a besoin de toi. » Lui, il a senti son cœur s'emballer. « Mais que puis-je faire ? Je ne suis qu'un peintre un peu fou. » L'étoile a soupiré. Le ciel perd ses couleurs avec toutes ses lampes allumées partout. Bientôt, le ciel ne sera plus qu'une ombre sombre. Il faut quelqu'un pour le veiller, lui redonner son éclat. Vincent, il s'est senti appelé par son destin. Il doit redonner des couleurs au ciel de nuit. Il a regardé par la fenêtre. Le village avait l'air de dormir paisiblement, sous un ciel aux camaïeux de bleu. Même le clocher de l'église semblait aspiré par le firmament. Il a pris ses couleurs. Une toile là, il a commencé à peindre furieusement, avec exaltation, sans s'arrêter. Le ciel, il l'a fait en grand. Il prend presque toute la place sur le tableau. Il vit avec lui, avec ses tourments, sa folie. On voit bien que le Mistral, il soufflait un peu. Le cyprès, là, à gauche, il ondule. Et même tout le ciel. « Regardez-moi ces volutes, ces tourbillons, cette grande spirale en folie. Tout le ciel tourne et cavale. Il n'y a que la lune à droite qui a l'air de ne pas être emportée, qui garde sa lumière autour d'elle, bien serrée. Du coup, avec toutes ces lumières, le ciel n'y est même pas bleu nuit. Et les étoiles,
Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, il y en a seulement 11 tourbillonnantes. Et puis, des nuages aussi, comme une espèce de grande chevelure. Lumineux aussi. Pour un peu, ils avaleraient les alpilles en dessous. Et les collines aussi. Vincent, lui, une douce chaleur l'enveloppe. Il se sent mieux pour l'instant. Il a fait son devoir. Redonner des couleurs au ciel de nuit. Plus tard, des ciels, il en fera encore. Plus haut, là, dans le nord. Et puis, encore plus tard, un jour, il tendra la main vers son étoile. Son corps donnera l'impression d'être léger, de s'envoler avec la brise, mais il restera là. Et son esprit, lui, sera emporté par un tourbillon tranquille. S'élèvera au-dessus des villages, des collines, des villes. Il a rejoint là-haut le ciel et une nouvelle étoile brille au firmament. Si vous écoutez bien, un jour, peut-être l'entendrez-vous, le veilleur des étoiles, vous raconter son histoire et répéter à longueur de temps « Il faut sauver le ciel ! Il faut sauver le ciel ! Il faut sauver le ciel !» Et peut-être aujourd'hui, sauver aussi la terre.
J'avance. Quand j'étais petit, d'aussi loin dont je me souvienne, mon père me disait tout le temps cette phrase. Mon garçon, pour avancer dans la vie, il faut regarder droit devant soi, sans jamais se retourner. Cette phrase, je l'ai entendue maintes et maintes fois, si bien que j'ai suivi son conseil. Oh, il y a bien eu des moments d'hésitation, mais à chaque fois, la voix de mon père qui me résonnait dans la tête comme une litote, « Avancez, regardez devant, jamais se retourner !» Alors vite, je me reprenais et j'avançais. J'ai grandi. J'ai réussi de longues études. J'ai tout de suite trouvé du travail qui me plaisait et de surcroît, très lucratif. Mon père était fier de moi. Au bureau, avec les collègues, on ne parlait pas de nos vies personnelles, non. On travaillait, on avançait. Un jour, alors que j'étais en déplacement à Bordeaux, pour le travail évidemment, en passant devant le musée des Beaux-Arts, une affiche attire mon regard. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, venait découvrir Rosa Bonheur, peintre des animaux, une personnalité hors du commun, née à Bordeaux le 16 mars 1822. J'ai bien envie d'en savoir plus. Sans obligation de retourner à Paris dès ce soir, veille du samedi, je décide de rester à Bordeaux. Et c'est le cœur léger que je pars à mon rendez-vous. Le lendemain matin, je suis impatient, intimidé aussi. Sans doute le manque d'habitude. Je me rends au musée. J'arrive dans une grande salle. Que de tableaux! Je ne sais où regarder. Quand alors mon regard se pose sur un immense tableau, le Labourage Nivernais, 1849. L'impression de vivre avec eux ce moment, qu'ils sont vivants, qu'ils me regardent comme sortis du tableau. Je suis émue et par magie, je me sens transportée dans ce petit village si vivant où tout jeune, j'allais passer des vacances chez mes grands-parents maternels. Il y avait toujours du monde dans les rues. Le boulanger et le charcutier passaient plusieurs fois la semaine et les femmes étaient là à l'attendre en discutant et là sur le banc, les anciens assis à se raconter les souvenirs d'antan. Moi, je passais mes vacances chez mon ami Paul. Chez lui, il y avait des vaches, des moutons, des poules. Alors je l'aidais à les soigner, puis en même temps, on s'amusait. Et le jour où la batteuse arrivait dans le village, mais tout le monde était là pour aider. Le soir, on était tous réunis autour des tables improvisées avec des planches et des tréteaux. On partageait notre repas. C'était la fête. Je ne sais pas combien de temps je suis restée devant ce tableau à revoir tous mes souvenirs de vacances. Mais j'ai senti qu'on me touchait doucement l'épaule et j'ai entendu « Monsieur, nous allons fermer ». Sortant de mon passé comme dans un rêve, j'avoue que j'ai eu du mal à revenir au temps présent. Le lendemain, je suis rentrée à Paris. Mais quelque chose en moi avait changé. J'approchais de mes 40 ans, je vivais seule, je travaillais et j'avançais. Mais pour aller où? Et puis, depuis cette visite au musée, toujours ce tableau dans la tête et tous ces souvenirs qui s'y rattachaient. Mais depuis la disparition de mes grands-parents, je ne suis jamais retournée dans ce village. Eh bien, je vais y aller le week-end prochain. Peut-être que je vais revoir mon ami Paul. Et quand je suis arrivée, je n'ai rien reconnu. Toutes ces petites fermes étaient devenues des maisons d'habitation. Il n'y avait même plus de champs. Il y avait de lotissements partout et des ronds-points. Oh, des voitures devant chaque maison, il y en avait. Dans les jardins, il y avait des balançoires, des trampolines, mais pas d'enfants. Mais où sont-ils? C'était devenu un village dortoir. Je suis repartie déçue. L'urbanisation avait effacé ma mémoire. Alors j'ai décidé de changer de vie, au grand désespoir de mon père. En Corrèze, j'ai trouvé une petite maison qui venait d'être tapée. Bien accueillie par les habitants du village, je me suis installée. Avec Internet, pour le travail, mais avec modération. Les collègues m'ont pris pour un fou. Mais quelque temps plus tard, il y en a un qui est venu me voir. Et en quelques heures, on en a su beaucoup plus sur nos vies personnelles qu'en plusieurs années à avoir travaillé ensemble. Et puis d'autres sont venus en vacances avec leur famille. Alors ils logeaient chez moi ou chez des voisins. Dans ce village, nous sommes comme une grande famille. Avant, j'avançais. Maintenant, je vis. Ce n'est que du bonheur. Merci, Rosa.